Peter Ogo à la présentation. Merci à vous de l'avoir suivi.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans l'Amérique et vous. Eric Manirakiza en votre compagnie, la mise en onde, Lionel Vunamira Gahima. Ce soir, nous parlons du football américain. Le football américain est un sport collectif opposant deux équipes de 11 joueurs qui alternent entre la défense et l'attaque. Le but du jeu est de marquer des points en amenant le ballon dans la zone d'un but adverse. Dimanche 7 février, plus de 96 millions de téléspectateurs ont suivi la finale de la Ligue professionnelle de football américain NFL et événement télévisuel de l'année aux États-Unis. Plusieurs Africains évoluent actuellement dans ce championnat NFL. Certains pays africains disposent d'une association nationale de football américain. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Notre premier invité, René Leck, analyste politique et amateur du football américain. René, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Et jeune basketball olympien centrafricain de 1988 à Séoul. Et jeune, bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir, bonsoir Eric et bonsoir à Alex.
René, le football américain est le sport numéro un aux États-Unis. C'est quoi le football américain? Y a-t-il une histoire de culture?
Oui, tout à fait. C'est vraiment le sport américain par définition. On a tendance à l'échelle internationale à penser que c'est le basket parce que les Américains sont de loin les plus doués en la matière, au point même que la NBA appelle son championnat le championnat du monde. Mais en fait, non, le sport vraiment le plus populaire, à la fois dans les villes et dans les zones rurales, c'est bien le football américain. Le basket, lui, il est plutôt populaire dans les zones urbaines. Il y a une appropriation de ce sport-là. Mais le football américain, c'est d'abord un sport, j'ai presque envie de dire rural, donc un peu de l'Amérique profonde, mais qui également se prolonge très clairement dans les zones urbaines. Donc, comme vous l'avez dit, et même les chiffres que vous avez donnés du Super Bowl, le nombre de téléspectateurs, il n'y a aucun événement sportif américain qui arrive à de tels chiffres.
Et vous, pourquoi vous l'aimez individuellement? Qu'est-ce qui vous intéresse?
Écoutez, moi, ça fait plus d'un quart de siècle que je vis aux États-Unis et c'est un sport que je ne connaissais pas du tout. Bon, je sais que c'est assez proche du rugby. Le rugby, on connaît un peu plus, oui, en Afrique de manière générale, mais j'avoue que je ne connaissais pas du tout. Et ça ne fait vraiment pas longtemps. Ça date de quoi? 2-3 ans, à cause d'une amie avec laquelle je marchais régulièrement, je fais du sport, qui elle est une passionnée de football américain, et a commencé à m'expliquer un peu les règles. Parce qu'en fait, l'une des raisons pour lesquelles je ne regardais pas trop le sport, il y avait deux problèmes. Un, c'est la violence du sport, parce que c'est un sport d'une violence extrême, ça n'y a aucun doute. Et deuxièmement, je ne connaissais pas les règles. Et avec cette amie-là, j'ai commencé à comprendre les règles, et depuis, j'avoue que c'est un sport que je trouve absolument passionnant. Parce que je suis un passionné d'échecs et quelque part, c'est les échecs sur un terrain physique où il y a du mouvement physique. Donc, c'est assez intéressant. Mais il n'empêche que c'est un sport très violent.
Mais ce n'est pas le qui perd gagne.
Non, ce n'est pas le qui perd gagne. Non, pas du tout.
Et Jeanne, quelle est la différence entre le football américain et le football classique?
D'abord, je vais un peu revenir sur l'historique parce que le football américain a été influencé en grande partie par des Anglais. Un pays dans lequel on joue au rugby et aussi on joue au football qu'ils appellent ici communément soccer. Ils ont pris un peu des deux sports qu'ils ont alliés ensemble. Le fait que rugby aussi, on botte la balle dans des poteaux, ça a été mis au football américain et ils ont appelé football. mais c'est une très grande différence avec le soccer, qui se joue aussi à 11, mais qui a un goal, et où on marque des buts, alors que le football américain, c'est, il y a beaucoup de passes avec les mains, il y a beaucoup d'actions dans la course, où on lance à ce qu'on appelle le wide receiver, quelqu'un qui court, qui reçoit la balle, ou du moins un différent attaque, plusieurs joueurs peuvent recevoir la balle après des lancers, mais c'est aussi des percées qui sont faites par des gens qui profitent de blocs, d'écrans, et qui se faufilent dans la masse pour aller marquer dans une zone qu'ils appellent le end zone. Et ce sport est comme ça. Et quelquefois, si on n'arrive pas à atteindre le end zone, on a la possibilité de faire un kick, un coup de pied entre les deux poteaux et on a 3 points. Donc on a 3 points quand on tire entre le poteau. On en a 6 quand on fait le touchdown, ce qu'ils appellent un touchdown, donc ils atteignent la zone finale, avec en bonus un tir entre les poteaux qui donne 1 point supplémentaire et 7 points. Et donc, c'est un sport par rapport, par exemple, au football, ce qu'on appelle le soccer ici. La position, comment les joueurs sont positionnés sur le terrain est totalement différent. Ils sont tous en parallèle, alors qu'au football, il faut occuper tous les espaces, parce que si vous n'occupez pas tous les espaces, les contre-attaques en sens inverse, au football, il y aurait des buts. Et donc, la disposition sur le terrain est différente. La taille du terrain est pratiquement la même, mais le jeu se passe avec des passes. Quand une équipe est en attaque, leur boulot, il y a une défense, du moins il y a ce qu'ils appellent la ligne offensive, dont le but est de protéger le quarterback qui est d'une certaine manière celui qui est le stratège, qui va faire le choix entre lancer la balle, donner la balle à quelqu'un pour courir, et ça se passe de la sorte. Et ils ont la possibilité, ils ont 4 chances pour pouvoir atteindre 10 yards. Et chaque fois qu'ils atteignent 10 yards, ils ont de nouveau 4 chances ainsi de suite. Et quand ils n'arrivent pas à atteindre ces 10 yards et qu'ils sont trop loin de la end zone de l'adversaire, ils sont obligés de se débarrasser de la balle en la bottant l'adversaire. Donc c'est un jeu dont la stratégie est totalement différente. Je voulais seulement ajouter, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, la différence entre le football, pourquoi il y a autant de spectateurs, c'est qu'un Super Bowl, ce n'est qu'un seul match. Une finale de NBA, ça peut se jouer sur 7 matchs, de hockey sur 7 matchs, et de baseball sur 7 matchs, de soccer, je ne sais plus combien. Et donc, par conséquent, ce match est tellement important qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont le voir. Parce qu'aux États-Unis, le sport, c'est un spectacle. Et donc, je ne pense pas qu'il puisse avoir dans un match de basket sur 7 matchs, plus de 90 millions, même si le basket est vu mondialement, probablement, à un nombre extrêmement important, la NBA. Mais le football, comme l'a dit René, c'est très populaire, même si aujourd'hui, le soccer est le sport le plus pratiqué dans les écoles, les elementary schools par exemple.
Est-ce que c'est un sport qui vous a tenté un jour?
Alors moi, personnellement, si j'avais pu venir aux États-Unis beaucoup plus jeune, j'aurais facilement joué au football et je pense que j'aurais fait une carrière professionnelle très facilement parce que bon, j'ai joué au basketball à un très haut niveau, mais j'ai joué au rugby. Puisque j'ai vécu en France, j'avais joué au rugby, j'étais un très bon joueur de soccer. J'étais un athlète, je peux dire parfait, parce que je fais de l'athlétisme, de la natation. Et pour moi, je trouve que ça aurait été plus facile si j'étais venu, même si, pour en dire René, c'est un jeu qui est très violent, mais j'aurais pu être un très bon wide receiver, puisque je fais quand même 1m91, 92, donc courir, recevoir la balle. Ou si j'avais été ici, j'aurais peut-être tenté de jouer quarterback, parce que étant basketteur avec la vue périphérique, j'étais toujours été un meneur. Dans mon équipe de basket, je suis meneur arrière. Et donc ça m'aurait tenté de jouer. Donc c'est un sport qui, si j'avais grandi aux États-Unis, j'y aurais joué pour sûr.
Et René, comment le Super Bowl, au-delà de la rencontre sur le terrain, est devenu un événement festif qu'on regarde à plusieurs en famille ou entre amis?
Écoutez, parce que je crois que c'est le point que vous souleviez tout à l'heure, au tout début. C'est le sport américain par excellence. Il porte pour beaucoup la culture américaine. Ce côté de regroupement familial très profond dans la culture américaine. Eugène disait tout à l'heure, parler du fait que les gens se retrouvent en famille, etc., pour regarder le Super Bowl et les matchs de football de manière générale. Le fait que les gens vont beaucoup voir les matchs de football américain. Mais tout ça, pour mettre quoi? Ce que je cherche à introduire ici, c'est la dimension culturelle du sport. Parce que aussi, et j'imagine qu'on va y arriver, le sport aussi, c'est le sport le plus représentatif des évolutions sociétales de l'Amérique, notamment sur la question du racisme, sur la question des tensions raciales qui se prolongent jusqu'à aujourd'hui. Moi, je sais que l'une des premières introductions que j'ai eues au football américain, c'était dans un cours d'anglais il y a plus de 25 ans dans un centre de formation où j'étais pour perfectionner mon anglais quand j'arrivais aux États-Unis. Et c'est là où j'ai entendu parler pour la première fois d'un quarterback. Et ça, c'est quoi? C'est le joueur qui est sur, dans l'équipe de football, qui a la position la plus importante, qui est le meneur de jeu dont parlait Eugène tout à l'heure, et qui est central dans ce sport-là. Mais pendant très très longtemps, seuls des Blancs pouvaient jouer sur cette, dans cette position, parce qu'on considérait que l'intelligence des Noirs n'était pas suffisamment vive pour jouer dans de telles positions. Donc, c'est une sorte de miroir de l'Amérique, d'un point de vue de sa culture, d'un point de vue de sa politique. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pratiquement que un ou deux entraîneurs noirs dans la NFL. Il n'y a aucun propriétaire noir. Les 32 équipes appartiennent toutes à des Blancs, sauf une équipe qui appartient à un Américain d'origine pakistanaise. Donc, c'est un sport où les questions politiques, les questions culturelles, les questions notamment liées au racisme systémique dans ce pays-là, se posent de manière très accentuée et régulièrement.
Mais on voit plusieurs Noirs qui sont dans les différentes équipes, même des Africains.
C'est le paradoxe. C'est un peu ça, l'un des grands paradoxes de l'Amérique, comme vous savez, Eric. C'est vrai, 75% des joueurs de la NFL sont des Noirs. D'accord, de la même manière pour le basket. Mais le basket, au moins, il y a un effort. Au basket aussi, il y a des problèmes, bien entendu, sur ce terrain-là, mais ce n'est pas aussi fort. Au contraire, la NBA a même un côté très progressiste de ce point de vue-là, parce qu'elle anticipe sur ces questions-là, alors que la NFL, elle n'anticipe pas, elle est littéralement à la traîne. Et c'est l'une des grandes tensions qu'il y a entre les joueurs noirs et la Ligue elle-même.
Eugène, quelle est la situation des joueurs d'origine africaine, bon, qui ne sont pas des Afro-Américains, je dis disons des Noirs qui sont nés ici, mais qui viennent de l'Afrique et qui jouent dans ce championnat.
Ouais, tout à fait, Eric. En tout cas, juste pour ajouter quelque chose que René dit, c'est effectivement c'est ce qu'il a dit. Il y a la NBA, du moins la NFL, a encore des problèmes au niveau que ce soit les nombres des coachs, ainsi de suite, avant de répondre à l'autre question. Et il y a un long chemin à parcourir. Donc c'est économique, tous ces trucs-là. Et pour revenir à ta question, mais de plus en plus, les Africains qui sont nés spécialement ici aux États-Unis, la plupart, pour beaucoup d'origine nigériane, ghanéenne, camerounaise, sierra léonaise, zimbabwéens, zambiens même, s'intéressent de plus en plus au football américain. Hein. Il y a un truc qu'il faut comprendre aux États-Unis, il y a deux volets dans le sport et dans le football américain. Le football, le sport, qui est un business très important aux États-Unis, est un moyen aussi qui permet à des jeunes d'aller à l'université qui coûte excessivement cher, aller y aller gratuitement quand vous pratiquez un sport. Donc ça peut être un sport qu'un enfant joue par passion, mais qui devient important lorsque quelqu'un veut, s'il veut aller dans une grande université, je donne un exemple, LSU, que ce soit Alabama, des grandes écoles, des grandes universités, en jouant au football, ils y ont accès. Et je crois qu'il y a de nombreux Africains ici qui l'ont compris et qui se permettent d'aller y jouer et qui ont des ambitions pour être professionnels, parce que à la fin, on peut faire sa vie en jouant au football. Il y a des contrats qui vont jusqu'à 200, 300 millions de dollars, sans compter les commerciaux, c'est-à-dire signer pour une chaussure, ainsi de suite. Donc, ça peut être très lucratif. Et donc, ces Africains ont compris aussi cet aspect de la chose. Ils peuvent à la fois bénéficier d'études dans toutes sortes de domaines. Et ce qui est bizarre, le football américain est d'ailleurs le sport par excellence où les Noirs, que ce soit les Africains ou les Africains-Américains, font des études complètes. Parce qu'au basket, moi je suis dans le basket en particulier, on voit que de nombreux joueurs peuvent partir dès le lycée, s'ils ont l'âge de 19 ans, en NBA directement. Ça ne peut pas se faire au niveau de la NFL. La NFL, l'enfant doit suivre un curriculum. Bon, il y a plusieurs raisons, ça peut être aussi raciste d'une certaine manière, où on empêche des jeunes noirs de pouvoir aller jouer à la NFL directement, alors que par exemple, on voit des jeunes blancs, quand ils sont baseball, quitter le lycée directement professionnel ou au tennis ou au golf. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est juste pour dire que grâce à cette possibilité, de nombreux Africains ont compris la clé. Ils pouvaient aller faire des études. Peut-être leurs parents ne peuvent pas se permettre de les envoyer dans des écoles qui sont pour la plupart privées. Et le football leur donne cette opportunité. Et s'ils sont réellement talentueux, eh ben, ça leur ouvre une plus grande porte et la possibilité de jouer professionnel. Et c'est comme ça qu'on retrouve tous ces Africains des différentes nationalités qu'on a donner et qui se comporte très bien, très très bien dans cette discipline et qui joue vraiment à un niveau très élevé.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Vous écoutez l'Amérique et vous, on parle du football américain. Eric Madirakidza, toujours en votre compagnie. René Lec, pour jouer, il faut enfiler son casque et ses épaulières de protection. Est-ce qu'on peut dire que le football américain est un sport de combat collectif?
Oui, bon, sport de combat. On peut dire ça, oui, quelque part, si on veut caricaturer un peu, mais d'une violence physique extrême. Et c'est ce qui explique les blessures au football, dans le football américain, peuvent être extrêmement sévères. Beaucoup d'entre elles peuvent justifier la fin d'une carrière d'un sportif. Vous me direz, ça arrive dans d'autres sports, mais pas au même degré, bien entendu. Et il y a des cas, bon, moi le peu de temps, c'est vrai que maintenant je suis ça de fait très près, mais c'est quoi, ça fait 2-3 ans, les types de blessures que j'ai vues sur le terrain, c'était absolument horrible. Je pense par exemple au quarterback de Dallas qui avait littéralement, le Cowboy Dallas qui avait littéralement le pied retourné à plus de 90 degrés. C'est des situations absolument horribles. Mais plus important que les membres du corps, c'est surtout la tête, les problèmes de contusion que ça pose. Il y a même un film particulièrement célèbre dont le problème porte et le titre du film lui-même, et je crois que c'est Will Smith qui joue le rôle justement de ce médecin, qui est un médecin d'origine, je crois, nigérian, si je me souviens bien, qui est une histoire vraie et qui pose les problèmes des conséquences physiques, mentales, psychologiques de tous ces contacts-là sur la tête pour les anciens joueurs de football. Et donc c'est un véritable problème. J'avoue que bon, étant un peu un novice dans le sport, le regardant à chaque fois, je me dis, mais c'est étonnant quand même que la NFL, et c'est en ce sens-là où je vous dis qu'elle était réactive, pour ne pas dire réactionnaire, je me dis toujours, mais pourquoi attend-il, s'il est évident que dans 15 ans, dans 20 ans, le sport tel qu'il est pratiqué aujourd'hui ne sera pas un sport acceptable. C'est un peu comme la boxe. Ça ne peut pas être des sports qui peuvent, dans des systèmes de société civilisée, qui peuvent continuer de la sorte. Ça ne me paraît pas raisonnable, à mon avis. Donc je me dis toujours, mais pourquoi ils ne changent pas un peu les règles, notamment les règles de contact? Ils en ont changé pas mal, hein. Par exemple, je sais que le contact avec la tête, en mettant le casque en avant directement sur la tête de l'autre joueur, n'est plus accepté. Mais il y a d'autres mouvements qui, eux, restent encore acceptés. Par exemple, le casque sur la poitrine, etc. Et tous les problèmes que cela peut apporter. Donc, je crois que c'est un sport qui va être obligé, quelque part, d'évoluer. Je ne peux pas imaginer une seule seconde que dans 20 ans, le sport soit pratiqué de la sorte. C'est tout simplement, à mon avis, pas jouable.
Jeune, le football américain est présent en Afrique. Le Maroc et l'Égypte disposent déjà d'une association nationale de football américain. Comment le football américain débarque sur le continent?
Ben, je pense que d'abord, l'une des premières raisons, c'est parce que c'est des pays qui sont pas très loin de l'Europe. Et dans ces pays, par exemple la France, il y a un championnat de football américain. Et de facto, probablement, certains de ces pays africains ont été intéressés de pouvoir développer ça sur le continent. Et je pense que, personnellement, moi, j'ai mon autre casquette parce que j'ai une organisation qui s'appelle Éducation Sport, dans laquelle que j'utilise pour aider des jeunes Africains à venir faire des études. Donc, ils font un sport et ils font leurs études ici à l'université, au lycée d'abord, puis à l'université. Et je pense que l'Afrique devrait s'intéresser à cette possibilité. Et c'est un dossier sur lequel je me suis penché, que j'essaie de développer avec d'autres jeunes Africains qui ont joué au football américain ici ou qui jouent, pour voir comment justement développer ce sport afin de faire des recrutements pour amener des jeunes dans des lycées, puis dans des universités américaines, pour qu'ils puissent pouvoir faire leurs études tout en faisant le sport. Mais peut-être que ce serait un sport qui pourrait avoir sur un plan socio-économique un impact aussi en Afrique, parce que le sport aujourd'hui n'est plus un jeu, c'est un business. Et comme René le disait, il serait étonné que dans 20 ans le sport, le football n'aura pas peut-être évolué d'une certaine manière. La chose qu'il faut se rappeler, c'est que le sport est un moyen de gagner de l'argent, et c'est beaucoup d'argent quand c'est professionnellement fait. Le marché américain, c'est le plus grand marché de sport, même si par exemple en Europe il y a le soccer avec l'UEFA, mais ce n'est pas aussi grand que le marché de sport qu'il y a ici aux États-Unis. Et
l'Afrique a été bénie en beaucoup en matière première, des ressources minérales, ainsi de suite, mais les ressources humaines sont énormes. Que ce soit, c'est pas seulement pour jouer, même intellectuellement, mais dans le sport, il faut reconnaître que les Noirs ont un avantage sur l'ensemble des autres athlètes. Ils ont été bénis de Dieu.
Pour peu qu'ils suivent un régime alimentaire qui est correct, qu'ils aient une hygiène de vie correcte, qu'ils soient professionnels et qu'ils soient entraînés avec des bons entraîneurs, ainsi de suite, ils peuvent réussir dans tous les sports qui existent. Et c'est vrai, c'est pas tout le monde qui peut être un athlète professionnel. Dans l'exemple du basketball, où il y a 30 équipes et donc il n'y a que 15 salariés officiels, donc 450 joueurs, dont certains jouent peut-être pendant 10-15 ans, un grand nombre, et pour avoir une place chaque année, il y a très peu qui puissent y rentrer. Mais c'est une manière aussi de développer le pays. C'est par exemple un moyen d'utiliser. Personnellement, moi, j'utilise le sport pour permettre à mes frères africains de pouvoir faire des études dans un autre pays, apprendre autre chose, en espérant que quand même ils pourront repartir en Afrique et puis rendre ça, pas seulement rester ici. Donc l'Afrique, ça commence avec le Maroc, mais je pense que les autres pays devraient s'y intéresser. En tout cas, moi, je fais partie de ces gens qui souhaiteraient justement développer le football américain en Afrique, car on a un énorme potentiel humain qui pourrait permettre de le faire et puis l'utiliser par conséquent pour leur permettre de faire des études et pourquoi pas avoir une carrière professionnelle.
Il y a un niveau de préparation physique des joueurs énorme avec une hygiène de vie très stricte. René, est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'Afrique, on peut, disons, investir pour développer ce sport de football qui est populaire? On ne voit pas des investissements conséquents.
Écoutez, moi je crois que au football américain, il y a une chose qui est intéressante, c'est que pratiquement tous les types physiques y ont leur place quelque part. C'est vrai que quand on joue sur certaines positions en défense ou même dans l'équipe d'attaque, ceux qui protègent, le quarterback en anglais, je connais pas l'expression, le nom en français, mais disons un peu celui qui joue la position centrale de distribution de la balle, les gens qui le protègent en général, ce sont des gens assez costauds. Certains même sont grand, très 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 fort. D'autres positions, c'est quelqu'un qui peut être au contraire plutôt de taille très moyenne mais rapide sur ses jambes. Et tout à l'heure, je faisais allusion aux wide receivers, qui sont des gens en réalité qui peuvent être longilignes et qui courent très très vite. Donc, quel que soit, j'ai presque envie de dire la forme physique ou le type physique des personnes, il y a des positions qui sont disponibles sur un terrain de football américain. Alors qu'on pourrait dire qu'en basket, il est évident que si vous avez une certaine taille, vous êtes grand, c'est un avantage de toute évidence. Bien que vous me direz des gens comme Steph Curry, etc., qui sont, ou Kyrie Irving, qui sont plutôt petits, montrent que ce n'est pas seulement vrai, que on peut compenser par le talent. Mais je crois que, en tout cas, de ce point de vue-là, quels que soient les enjeux, les problèmes nutritifs qu'il y a sur le continent, je crois qu'effectivement, il n'y a aucune raison. La preuve, il y a de très bons boxeurs, il y a de très bons catcheurs, de très bons au Sénégal. Quand je suis originaire, il y a ce qu'on appelle l'ambre, la lutte traditionnelle. Et en général, ce sont des gens très costauds et tout qui s'y adonnent. Donc je crois qu'effectivement, il n'y a aucune raison que les Africains ne puissent pas être performants dans ce sport. Et vous le disiez vous-même, il y a beaucoup de joueurs de la NFL qui sont des Africains et qui sont des très très bons joueurs.
Et jeunes, il nous reste quelques secondes. Comment intéresser les jeunes Africains et les initier au football américain?
Déjà, Eric, il faut que tu saches qu'il y a de nombreux pays qui ont déjà des ligues de rugby en Afrique. Il faudrait que certains Africains qui vivent aux États-Unis, qui ont joué au football ou qui ont fait d'autres sports, puissent aller en Afrique et essayer de sensibiliser et probablement développer des ligues nationales. Peut-être au départ, on peut même, en tout cas moi c'est ce que je vais faire, je vais faire venir des jeunes ici. Ils n'ont peut-être pas joué au football tout de suite, mais par exemple, je vous donne un exemple, il existe de nombreux joueurs de football américain qui étaient des soccer players, parce qu'il faut botter la balle entre les deux poteaux, ils sont pris pour ça. Il y en a qui sont des athlètes qui ont fait de l'athlétisme parce qu'ils courent, ils peuvent être à la fois des running backs, ça s'apprend, ou alors des wide receivers. Et je pense que c'est comme ça, lorsqu'on va faire ça et qu'on va montrer qu'il y a des jeunes qui sont partis de l'Afrique et qui sont venus jouer ici, et qu'il y aura certains d'entre nous qui vont pouvoir essayer de sensibiliser et développer les ligues en Afrique, je pense que c'est un sport, à la fois, parce que moi personnellement, moi, je vois le côté business du sport, c'est-à-dire j'ai compris comment ça marche ici, comment faire pour intéresser, c'est ce que j'essaie de faire actuellement, des universités américaines à investir dans le développement du recrutement de joueurs africains évoluant sur le continent africain pour venir jouer au football américain ici. Je pense que quand on va faire ça, le sport va commencer, on va pouvoir développer le sport sur place et les choses vont complètement changer.
Nous arrivons au terme de cette édition de l'Amérique et vous. On parlait du football américain et des Africains qui participent dans le championnat NFL ici aux États-Unis et du développement de ce sport au niveau du continent africain. Merci à Aaron Elek, analyste politique et amateur du football américain. Merci.
Merci, Eric.
Eugène, basketball olympien centrafricain de 1988 à Séoul, qui a un projet sur les jeunes africains pour venir ici aux États-Unis pratiquer plusieurs sports. Merci, Eugène.
Merci, Eric, pour cette opportunité. Merci.
Eric Manilakis a été avec vous. La mise en onde était assurée par Lionel Manila Karima. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À la prochaine.